Ce matin, j'aimerais vous parler un petit peu de quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Pour être honnête avec vous, le Seigneur m'a mis ce texte-là à cœur cette semaine quand j'ai eu un syndrome qui s'appelle le syndrome de la page blanche. Je sais pas s'il y en a qui le connaissent, là, mais ça arrive quand tu n'as pas d'idée et tu n'as rien à écrire. Ça, c'est le fun. Mais je lisais à travers la parole de Dieu, j'écoutais les messages qu'on a eus récemment, j'essayais de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai passé 2 semaines à faire ça, à tous les jours. Tous les jours, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je lisais dans la parole, j'écoutais les messages qu'on avait eus, j'essayais de me confier à Dieu le plus possible. Et puis, je me suis mis à réfléchir sur, bon, qu'est-ce que j'apporte? Et j'ai lu un passage dans Jacques, si vous voulez lire et tourner avec moi, Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Et on va lire ce passage-là, et ensuite on va y revenir dans 30 minutes. Mais on va le lire, parce que c'est ça qui a déclenché ce que j'aimerais partager avec vous. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et donc, ce matin, ça va être notre texte de base, et on va y revenir tantôt. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut venir devant toi te demander de nous parler ce matin, de nous faire du bien par ce texte, de nous aider à l'assimiler comme il faut, à le mettre en pratique dans nos vies, à pouvoir, Seigneur, chercher ta face à travers toute chose et que tu puisses nous parler et vraiment nous encourager ce matin. Je te prie ces choses pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Donc, on peut aller dans... La première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est une réflexion sur le monde d'informations qu'on a. Une mentalité que vous allez probablement tous reconnaître un peu, c'est la mentalité scientifique. Cette idée qu'on a que chercher de l'information, c'est vraiment la chose la plus importante qu'on peut avoir. Donc là, tout le monde autour de moi, encore dans ma vie, probablement autour de vous aussi, vont chercher de l'information, vont aller dans des livres sur Internet. Sur Internet, c'est beaucoup plus facile que des livres, là, on s'entend. Mais on va aller sur Internet, Google, on va chercher de l'information. Et là, on va prendre le plus d'informations possible. Je vais essayer d'en avoir le plus possible. Et puis, je vais essayer surtout d'avoir le plus de sources différentes qui vont dire la même chose pour essayer d'avoir une certaine crédibilité. Et ça amène un esprit opiniâtre. Je sais pas si c'est le bon mot ou la bonne façon de le dire, mais ça amène que mon opinion, parce que moi, je suis capable d'aller chercher de l'information sur Internet, parce que moi, j'ai lu un livre ou dans une revue, Ricardo m'a dit ça, je suis maintenant un professionnel. Et mon opinion devient beaucoup plus importante que le vrai fait. Parce que sur Internet, le petit monsieur, il l'a dit, puis il y avait une preuve qu'on ne sait pas elle vient d'où. Et puis là, mon esprit d'opiniâtre va faire que là, dans une discussion quelconque, là, mon troisième point, c'était le Québécois chialeux. Fait que là, dans une conversation amicale avec quelqu'un, je vais pouvoir utiliser mon information trouvée à la sueur de mon front sur Internet. Je vais pouvoir l'utiliser dans une conversation pour avoir raison. J'aime ça, moi. Moi, je fais ça souvent. Je vais sur Internet, je trouve de l'information sur des sujets X ou Y. C'est pas grave. Et puis là, quand un jour, il va y avoir une discussion où là, on va pouvoir partager des opinions. Et je suis maintenant un professionnel en la matière. Hein? J'ai lu, j'ai pris de l'information. Et maintenant, mon opinion prévaut sur la vôtre. Et puis là, on va se titiller, puis on va s'astiner ou peu importe. Et puis là, ça va devenir important que j'ai raison. Que j'applique l'information ou non à ma vie, c'est pas grave. Combien d'entre vous ont eu une toux, un mal de tête, un petit peu mal au cœur, vont sur Internet, ils ont le cancer? Ma femme, ça y arrive souvent. vous savez, c'est une espèce de mentalité qu'on a parce qu'on a accès à tellement d'informations. Ma réflexion était, qu'est-ce qui se passe, et c'est vraiment la base du message, qu'est-ce qui se passe quand la mentalité du monde d'information, la mentalité scientifique, qui veut dire que moi, j'ai accès à plein d'informations. Je fais pas nécessairement un tri, mais je vais aller en chercher le plus possible. Parce que si ça arrive dans une discussion, qu'à un moment donné, quelqu'un a trouvé plus d'informations que moi, puis peut défaire mon point, bien j'ai une autre porte de sortie par en arrière que je vais être capable d'y apporter. Qu'est-ce que ça fait quand ça passe de, bon, un système de santé défectueux, la politique, ou peu importe, mon opinion en politique n'est pas importante, mais je peux m'astiner pareil. Quand ça passe du monde à l'Église, sur des doctrines fondamentales, sur des choses importantes, est-ce que cette mentalité-là, d'avoir de l'information qui ne me servira probablement à rien, que j'utiliserai jamais, mais au moins j'ai de l'information, est-ce que ça a infiltré mon Église? Est-ce que ça a infiltré ma vie? Est-ce que dans ma vie chrétienne, j'ai ramassé tellement d'informations que maintenant je suis un professionnel dans plusieurs domaines, mais que ça ne me sert absolument à rien à part gagner un argument que j'ai eu avec un non-croyant ou avec un autre croyant? Tu sais, on donne des cours sur, et puis là, j'ai rien contre les cours, hein, en passant, mais on donne des cours sur la fin des temps, sur le calvinisme, on donne des cours sur ça. Et puis là, je connais plein de croyants qui ont pris position ferme sur des points de doctrine qui sont importants. Mais appliqués à leur vie, on ne sait pas trop comment. Oh oui, moi, j'ai étudié le calvinisme, puis maintenant je suis un 3 points. Ah, moi, je suis un 4 points. Moi, je suis un 5 points. Moi, je suis un 1 point. Ah, moi, je suis près 1000. Moi, je suis à 1000. Moi, je ne crois pas à la fin des temps. On a deux natures. On a trois natures. Je lance des choses comme ça. S'il y en a qui savent de quoi je parle, c'est des débats. C'est des débats. Ça a divisé des églises, des gens qui ne se parlent plus. Ah, moi, je crois au baptême par immersion. Moi, c'est par l'aspersion. Moi, je ne crois pas au baptême. Dans la réforme qu'on a eue, vous avez eu quatre messages sur la réforme. Si vous êtes au courant, ceux qui croyaient au baptême par aspersion ont noyé des croyants qui croyaient au baptême par immersion. Ça a fait tellement de dégâts parce que dans leur compréhension de la parole, le baptême était différent. Ça a été un débat. C'est terrible. Et c'est des auteurs qu'on lit. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que aujourd'hui, vous avez accès à tellement plus d'informations que ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'information? C'est différent, c'est difficile, c'est spécial. Et aujourd'hui, il y en a tellement que comment je tiens ferme face à ça, à avoir de l'information? Et puis, je peux vous dire, moi, je décide demain matin que je crois que Dieu aime tout le monde, puis qu'il n'y a aucun jugement, il n'y a pas d'enfer, rien. Je vous trouve 50 ressources demain matin, puis je vous fais une théologie que ça va être difficile à réfuter si vous n'êtes pas aguerré. Demain matin, c'est facile. OK? Est-ce que ça serait vrai? Comment est-ce qu'on tient ferme à ça? Comment est-ce qu'on peut se tenir? Et le texte qu'on a lu ce matin, moi, m'a fait réfléchir à une chose, qui est divisée en deux. C'est les deux natures du croyant. Les deux natures du croyant. Donc, souvent dans la parole de Dieu, à travers l'Évangile, il y a deux choses qui se passent. Il y a l'homme naturel qui est présenté, celui qui ne connaît pas Dieu, celui qu'on combat dans la chair, celui qui est tout le temps présent. C'est lui qui dirige pas mal tout. Et il y a l'homme nouveau, ou l'homme régénéré. Et les deux natures sont en nous, qui croyons, qui avons été sauvés. Dieu nous donne une nouvelle nature. Il prend pas la vieille pour la transformer puis en faire une nouvelle. Il nous donne une nouvelle nature complète et parfaite en Christ. Et ce matin, on va prendre le temps de regarder ensemble ces deux natures-là. On va se concentrer sur une chose. Comment il traite l'information reçue? Comment est-ce que l'homme naturel ou l'homme charnel va traiter l'information reçue? Et là, on va parler d'information biblique, pas nécessairement de la pluie du beau temps. Et ensuite, on va parler comment ils assimilent et utilisent l'information qu'ils ont reçue. Parce que c'est bien beau de savoir quelque chose. Si je m'en sers jamais, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, les deux, comment est-ce qu'ils font? Et puis, on va essayer de ne pas passer trop de temps là-dessus, parce que c'est un concept qui est très profond. On pourrait en parler longuement. Mais, simplement les regarder ensemble, le naturel contre le nouveau. Et puis là, on a plusieurs versets qu'on pourrait lire ensemble, qui nous parlent de l'homme naturel comparé à l'homme nouveau. Et puis, il y en a des classiques là-dedans. Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais lui vous a régénéré, vous a donné une nouvelle nature. On peut avoir dans Romains 1, 18, qui nous parle comment est-ce que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ceux qui pensent connaître plein de choses, qui ont un esprit scientifique, un esprit opiniâtre, mais qui un peu détruisent l'image de Dieu, qui la changent en quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose qui est vide. Et puis là, ils essayent de faire passer ça pour la vérité. Et puis là, dans le fond, l'homme naturel est attaché au péché. Et non seulement il est attaché au péché, mais il n'a pas la capacité d'agir ou de penser comme l'homme nouveau. On va retourner dans Colossiens, chapitre 3. Colossiens 3, s'il vous plaît. On va prendre le temps d'en lire quelques-uns. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Qui nous dit, « Faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Il décrit l'homme naturel. Regardez Colossiens 2, 8. Moi, c'est la page d'à côté. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Il décrit l'homme charnel qui, lui, l'homme naturel, se concentre sur ce qu'il voit, sur ce qu'il comprend. Et il vit un peu par son « feeling ». Hein, c'est quoi ton feeling là-dessus? Ben moi, ça me met en colère, fait que je vais être en colère, je vais avancer. C'est pas très, très, très spirituel. Mais pourtant, on peut spiritualiser bien des choses. Si on regarde l'homme nouveau, Romains chapitre 12, versets 1 à 3, il y en a probablement beaucoup qui le connaissent par cœur. Je vous exhorte donc, frères, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. On va tourner pour le lire. Parce que quand on est en avant, les versets qu'on connaît par cœur, ils s'en vont. Hein? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si on regarde ensuite, ceux qui n'ont pas tourné dans Romains, vous avez été vite, parce qu'on va aller dans Colossiens 3, verset 10. Il nous dit, « Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Au verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » L'homme nouveau n'est pas la même chose que l'homme naturel. Il est changé et en plus d'être un homme nouveau, il se renouvelle. Donc, ce n'est pas assez pour lui d'avoir été transformé et d'avoir une nouvelle nature. L'homme nouveau, l'homme spirituel, se renouvelle de jour en jour. N'accepte pas d'être le même que hier, que v'là 5 minutes. Il veut constamment être renouvelé parce que l'homme nouveau veut obéir à Christ. Et il va traiter l'information d'une façon différente. Si on tourne dans Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9, l'homme nouveau va penser différemment. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Si vous tournez dans le psaume 1, il nous dit « Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs ». Si vous tournez dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 1 à 8, il nous dit tout simplement… Si on commence au verset 2, « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité. » Verset 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Que celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, si vous regardez, l'homme naturel s'attache aux choses de la terre. Il est charnel, attaché au péché. Paul nous le présente comme l'homme à abattre dans notre vie, à le tasser. Et l'homme nouveau, lui, il veut se régénérer, s'accroche à Christ, cherche à être comme lui. Et si on regarde comment est-ce que ces deux personnes vont traiter l'information, je vais vous mettre à l'avant certaines choses. Je les ai écrits, j'espère qu'ils sont assez gros pour que vous puissiez les lire. Quelqu'un qui est passé par la nouvelle naissance doit avoir une compréhension de l'œuvre de Christ devant son Père, l'œuvre de Christ à la croix, à la résurrection, dans notre vie, notre âme et nos pensées, et l'œuvre de Christ à son retour. Une régénérescence constante de notre façon de penser et d'assimiler toutes les informations. Et la plupart d'entre nous, on est souvent capable de parler l'œuvre de Christ devant le Père. Qu'est-ce qu'il y avait de si important pour que le Seigneur Jésus vienne sur terre? Pourquoi est-ce qu'il devait travailler constamment devant le Père? Pourquoi est-ce qu'il était constamment en train de faire la volonté du Père? Et puis là, si on a une connaissance, une intelligence, on peut comprendre ces choses-là. Est-ce que je les comprends avec mon âme charnelle qui va assimiler l'information, qui va la garder, qui va avoir probablement des excellents détails, mais qui va garder l'information? Il ne mettra pas en pratique dans sa vie pour comprendre à quel point, devant le Père, il y a des choses qui sont terribles. Il y a des versets dans la parole qui démontrent à quel point Dieu déteste le péché et l'a en horreur. Il y a des versets qui, quand je les ai lus pour la première fois, j'ai fait, voyons donc, Dieu n'est pas comme ça. Voyons donc, ça se peut pas. Mais à quel point ces versets-là sont terribles. Mais quand je regarde à Dieu, quand je mets l'œuvre de Christ et l'œuvre de ma vie, quand je les mets devant le Père, il a entièrement raison. Si Dieu est prêt à aller aussi loin, est-ce que j'ai le droit de prendre cette information-là puis de la laisser dans ma tête? La laisser, excusez l'expression, mais pourrir dans mon cerveau? afin de la sortir dans un débat. Parce qu'on va avoir un débat que Dieu est amour, il n'y a point en Dieu de colère. Hey, wow, j'ai de l'information, moi. Wow. Non, Dieu est un Dieu juste, puis là, je vais vous sortir un psaume 129. Bang! Hi. L'œuvre de Christ à la croix. Pourquoi Christ est allé à la croix? Pas parce qu'il a manqué son coup. Pourquoi Christ est allé à la croix? Qu'est-ce qui fait que c'est important? Qu'est-ce qui fait que c'est profond? Pourquoi la résurrection est importante? Pourquoi Paul a écrit que sans la résurrection, il n'y a rien? Et vous le savez, je prends en considération là que vous le savez. Hein, je vous envoie des questions, mais vous connaissez les réponses. Hein? L'œuvre de Christ devant le Père, elle était parfaite pour montrer qu'on était incapable de le faire, pour montrer la sainteté du Père. L'œuvre de Christ à la croix, pourquoi il était là? Parce que peu importe ce qu'on fait, il y a une conséquence au péché. Et Christ ne dit pas, il n'y en a plus de conséquences. Vous êtes toutes libres, faites ce que vous voulez. Il dit non, je la prends. Ça prenait la croix. Sans la croix, il n'y a rien. Sans effusion de sang, il n'y a pas de... Hey, vous dormez, je vous ai réveillé. Mais la croix, elle est là. Christ a pris la punition, il a pris notre place. Il n'a pas donné un ticket pour aller au ciel. Non, non. Il a fait bien plus que ça. Pourquoi ça prenait une résurrection? Pourquoi Christ devait ressusciter pour valider toute son œuvre, pour montrer qu'il était la vie? Celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie » pouvait pas rester mort. Ça marche pas. Donc, si Christ n'est pas ressuscité, c'est un menteur. Ça marche pas. Puis, vous êtes ici pour rien. Mais amen, alléluia, Dieu est sauvé. Dieu est sauvé. Boswell. OK, non. Dieu est ressuscité. Puis on est vivant. Hein? Je vais tout réveiller, là. L'œuvre de Christ dans notre vie, notre âme, nos pensées, qu'est-ce que ça change à ma vie que je sois un croyant? Qu'est-ce que ça change à ma vie que Dieu ait donné sa vie à mon âme? Est-ce que je suis capable de penser à vivre sans Dieu? Parfois, je m'arrête. Souvent, au travail, je m'arrête, puis j'écoute les autres gars parler. Puis là, je me dis, « Wow! Si j'avais pas l'Éternel dans ma vie, je serais comme eux. » Puis là, l'homme naturel en moi fait comme, « Ah, t'es tellement bon! » Et l'homme nouveau, régénéré par Dieu, vient titiller et dire, « Hey, t'es comme ça. T'es exactement comme eux. T'es pareil si je suis pas là. » Si Dieu n'est pas là, t'es pareil, puis t'es peut-être même pire. Je vous connais pas, mais moi, je me connais. Et l'œuvre de Christ à son retour, pourquoi ça prend un retour? Pourquoi Christ doit revenir? Hein? Pourquoi ces choses-là sont là? Pour venir accomplir toutes ses promesses, venir valider toute notre croyance, tous nos espoirs. Il vient, il met un sceau final, et maintenant, on va être avec lui pour l'éternité. C'est ça, notre témoignage, ce qu'on veut être. Et là, dans tous ces points-là, il y en a d'autres, là. Mais dans tous ces points-là, il y a plein d'informations qu'on a que probablement ça ne nous sert à rien parce qu'on l'a assimilé par l'homme naturel. J'ai assimilé une information divine qui peut donner la vie, qui peut ressusciter l'âme d'un homme ou d'une femme mort. Je l'ai assimilé par ma nature morte et ça ne vient pas régénérer mon cœur, ça ne vient pas me faire changer parce que par l'homme naturel, j'ai fait ce que j'ai appris à faire, surtout dans notre monde québécois, avec la mentalité scientifique et l'esprit opiniâtre. Je l'ai pris, je l'ai casé dans un tiroir et j'ai appelé ça la théologie. Et ça, c'est très important que j'aille tous mes points sur mes i, toutes mes barres sur mes t, que j'aille tous mes arguments préparés avec tous les commentaires possibles et imaginables et toutes les ressources pour avoir ma théologie parfaite. Mais il ne faut pas qu'elle change mon cœur. Parce que ça fait mal. Parce que c'est dur. Parce que je vais probablement passer la plupart de ma vie à réaliser que je suis rien sans Dieu. Que mon orgueil d'homme en avant qui vous parle vient me dire « T'es rien si t'as pas Dieu. Ton message touchera personne si t'as pas Dieu. Si mon âme n'est pas régénérée, ce que je fais, ça donne rien. » Mais c'est dur. Puis plus il y a de l'information, plus c'est dur. plus j'ai d'informations, plus je peux facilement, par l'homme naturel, venir valider et justifier des choses dans ma vie. On va regarder ensemble comment on traite l'information. L'homme naturel va connaître plusieurs choses sur Dieu. Je vais vous demander une chose. J'espère que vous connaissez la réponse. Qui, dans l'univers au complet, à part Dieu, connaît le mieux sa Bible? J'ai pas entendu. Qui? C'est le diable. Est-ce qu'il est sauvé? Hey, si vous dites oui, répondez non, s'il vous plaît. Il y en a qui ont l'air à se questionner. Je connais, l'homme naturel va dire, moi je connais plusieurs choses sur Dieu. Et il va être content de vous le dire. Et des fois, ils vont connaître des choses que j'ai jamais entendues de toute ma vie. Et ils vont commencer à me parler d'un Dieu. Oui, la terre, c'est comme Dieu, elle a une âme, puis là, elle grandit. Puis... Mais il y a des croyants qui vont connaître des choses sur Dieu. Ah oui, Dieu est saint. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est patient. C'est dans ta vie. Ah ben, c'est le fun, il est bien Dieu. Comparez ça à l'homme nouveau. Il dit pas « Je connais plusieurs choses sur mon Dieu. Je veux en connaître plus. » Quand tu commences à connaître Dieu, tu réalises que tu connais rien de Dieu. Que chaque fois que tu commences à faire un pas, je connais quelque chose sur Dieu. Mais là, tu réalises qu'il est infini dans son attribut. Si on parle, mettons, le préféré de tout le monde, de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Je connais, je comprends que Dieu est amour par mon cerveau. Et là, je vais vivre quelque chose dans ma vie qui va venir briser cet amour-là. Je sais que Dieu est amour. Je l'ai appris et je l'ai mis dans une petite boîte. Dans ma tête, Dieu est amour. Théologiquement parlant, j'ai 40 versets à vous montrer. J'ai plein de choses à faire, ça va être important. Mais là, il arrive quelque chose dans ma vie et Dieu m'aime plus. Je suis brisé, je souffre, c'est dur, peu importe ce qui arrive. Dieu m'aime plus. Je suis fâché. La vie, c'est... Le mot que vous voulez utiliser. Et là, ce que je connais de Dieu dans ma petite boîte reste dans la petite boîte. Et je ne connais plus Dieu. Je ne l'ai pas vécu. Mais celui qui est brisé, qui connaît son Dieu, qui sait que Dieu est amour, puis qu'à travers une épreuve, l'a assimilé, il se dit pas « Dieu m'aime plus ». Il dit « Seigneur, j'ai besoin de plus d'amour. Comment je peux t'aimer? Comment je peux vraiment y aller? » L'homme régénéré comprend que la souffrance ne veut pas dire que Dieu m'aime plus. La souffrance veut dire que Dieu t'aime, veut te montrer comment il t'aime encore plus. Veut te montrer comment aimer quelqu'un différemment. Probablement que la personne qui te tape le plus ses nerfs, c'est celui que Dieu veut que tu apprennes à aimer. Tu n'apprendras pas à l'aimer demain matin. Il va probablement encore te faire mal. Mais tu veux apprendre à le connaître plus. Puis plus tu vas apprendre sur Dieu, plus tu vas être capable de le mettre en pratique. Puis là, tu vas vouloir l'assimiler. Puis là, tu ne feras pas, je vais prendre l'information, puis je vais la remettre dans la petite boîte. Ça s'appelle théologie, il y a de la poussière dessus. Tu enlèves la poussière, j'ai appris quelque chose de nouveau. Ferme la boîte, remets ça dans ton cerveau. L'homme naturel va dire, je connais le plan de l'Évangile. Mais je connais le plan de l'Évangile. Je l'ai appris quand j'avais 4 ans. Seigneur Jésus est mort pour mes péchés. J'accepte Jésus dans mon cœur. Amen. Je connais l'Évangile. Je connais. Je sais c'est quoi l'Évangile. Je sais que Jésus est venu sur terre, qui a vécu une vie parfaite, qui est mort sur la croix pour mes péchés, qui est ressuscité pour me donner la vie, et que maintenant il faut que je grandisse et que j'accepte ça. Les 5 couleurs. Right? Je connais l'Évangile. Je peux l'enseigner à des non-croyants, leur dire d'aller dans la rue, ils vont être capables de le partager. Je connais l'Évangile. C'est facile. C'est simple. En fait, excusez, j'ai dit un mensonge. C'est pas facile. C'est simple. C'est la chose la plus dure que vous allez jamais faire dans votre vie. L'homme nouveau va faire la chose suivante. J'ai compris mon incapacité à comprendre pleinement l'Évangile. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Plus je plonge les regards dans la parole, plus je regarde le plan de Dieu, plus je regarde l'œuvre de Christ, plus je réalise que je peux pas comprendre ça. Les anges au ciel qui sont tellement plus intelligents que moi regarde l'œuvre de Christ et se questionne. Qu'est-ce que tu fais, Dieu? Je comprends rien. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'aimes les hommes? Ils sont tellement haïssables. Pourquoi, Dieu, tu te donnes? Pourquoi tu prends une chair semblable à eux? Pourquoi est-ce que tu te laisses battre? Comment tu fais, Seigneur? Et ils se questionnent. Parce qu'il y a des anges que c'est leur job autour du trône de l'Éternel de se cacher la face, les pieds. Ils volent, ils veulent même pas toucher le sol parce qu'il est trop saint. Ils crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». C'est leur job, ils connaissent Dieu, ils l'ont vu. Puis ils se questionnent « C'est quoi ça, l'Évangile? Comment t'as pu faire ça? » Et puis, moi, dans mon orgueil d'homme, je vais dire « Moi, je connais l'Évangile. Moi, je suis capable de le partager, puis tout le monde va comprendre. Moi, je vais vous expliquer le kenosis. Là, là, hein? Je vous ai lâché un mot de même, là. Mais je vais vous expliquer ça, moi. Là, vous allez tout être capable d'expliquer pourquoi Jésus a abandonné l'usage de ses pouvoirs divins. Là, on va être capable, tout ensemble, de sauver le monde. Right? Non. Mais je connais l'Évangile. Je ne sais pas si vous voyez où j'essaye d'aller. J'espère que je ne suis pas trop brusque, parce que ça s'en vient plus rough. OK. Je fais mes devoirs et j'ai pris position doctrinalement. C'est un peu ce que j'ai expliqué tantôt, hein? J'ai failli mettre de l'eau sur le micro. Je fais mes devoirs et j'ai pris position doctrinalement. Peut-être pas tout le monde, mais l'homme naturel aime savoir des choses. L'homme naturel aime ça, avoir la réponse. L'homme naturel va aller voir, pas, tu sais, vous partagez un peu l'Évangile avec quelqu'un, vous lui prêtez une Bible, c'est quoi le premier livre qu'il rouvre? L'Apocalypse. 80% du temps, c'est ça. Hein? Ben, en tout cas, moi, dans mon expérience, là, les gens, ah, j'ai lu l'Apocalypse, ça fait peur, du monde qui meurt. Je t'ai parlé de l'Évangile. Dude, qu'est-ce que tu fais? Ah, oh, mais là, la fin des temps. Puis là, ils veulent tout comprendre. Je comprends rien, là. Moi, je regarde l'Évangile, j'ai pris position, je regarde la fin des temps, je regarde l'Apocalypse, j'ai pris position, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé un peu, mais je suis constamment appelé à sonder les Écritures pour vérifier si ce que je crois, c'est vraiment la parole ou si j'ai cru quelque chose toute ma vie, parce qu'on me l'a dit à un moment donné à l'école du dimanche, ou parce que quelqu'un l'a dit en avant, ou j'ai lu un livre, puis le gars, il avait l'air fin, puis il en a vendu des millions, ça doit être bon, tu sais. Mais là, j'ai fait mes devoirs et pris position doctrinalement, ça ne veut pas dire que je l'ai appliqué. Et ça ne veut pas dire non plus que j'ai toute l'information. Mais j'ai fait mes devoirs, fait que j'ai pris position. Moi, je suis un calviniste. 4 points. Puis je crois à, il n'y a pas de perte de salut, parce que j'ai tel verset. Puis moi, je crois que aussi Jésus va revenir avant le millénium, puis qu'on ne sera pas dans les tribulations. Puis là, j'ai fait mes devoirs. Et c'est important de faire ses devoirs. Je ne vous dis pas de ne pas les faire. OK? Il faut faire ses devoirs. OK? J'ai l'impression que j'étais à l'école. Hein? Mais je ne sais pas si vous remarquez un peu, il y a des gens qui vont approcher la parole de Dieu avec une mentalité que ça me désole, mais ils vont dire « Ah, je la connais, cette histoire-là. » Là, on commence à lire, ça arrive à tout le monde, j'imagine, on commence à lire un verset, « Ah oui, là, c'est telle information, telle théologie, ah oui, je la connais, cette histoire-là. » Et puis là, je sonde pas les Écritures, je cherche pas plus de réponses. « Ah oui, ça, je le connais. Ah, je l'ai déjà fait. C'est bon. » Là, on continue. Ça pas toucher mon cœur, pas transformer ma vie. Mais j'ai fait mes devoirs, puis je le sais. Personne ne va dire que je ne le sais pas. Personne ne va dire que je n'ai pas fait mes devoirs. Donc ça, c'est comment on va traiter l'information. L'homme naturel va en chercher plus. Je cherche plus d'informations. J'en veux plus. Parce que ma petite boîte, si quelqu'un me pose une question, puis que j'ai pas la réponse dans ma petite boîte théologique, je vais être en beau Moses, Puis là, il va falloir que j'aille trouver d'autres informations. Mais là, il va falloir que je le fasse rush. Puis là, Google, des fois, ça ne va pas bien. Puis, oh, c'est dur. L'homme nouveau, je veux être transformé. Dans la parole de Dieu, si vous prenez le temps de regarder tous les hommes qui sont venus face à face avec Dieu, ils disent pas « Plus, Seigneur! J'en veux plus! Plus! » Ils sont comme « Arrête, Seigneur! Je vais mourir! Je tombe à pleine face! Arrête, Seigneur! C'est trop! Je suis plus capable! Je peux même pas assimiler l'information! Arrête, Seigneur! Doucement! Wow! Je vais mourir! Arrête! T'es trop saint! T'es trop grand! T'es trop fort! » Quand Moïse a l'audace de dire à Dieu « Je veux voir ta face! » Dieu dit « Calme-toi. Cache-toi là. Je vais te montrer le bout de ma cape. Tu vas en avoir en masse. » Puis, l'homme naturel, dans l'Église, en 2017, le 2 décembre, va dire « Ah ouais, bring it! Amène-en de l'information. Capable d'assimiler ça. J'ai un cerveau, un esprit scientifique. Hein? La foi, on n'est pas des niaiseux. » Moi, avec mon esprit scientifique, mon information, il y a encore plus de place dans ma petite boîte. 2017, faudrait que je dise mon disque dur externe, je sais pas. Mais j'ai de l'information, il y en rentre, let's go. Puis l'homme nouveau, lui, il apprend une vérité sur Dieu, puis ça vient le briser. Parce que dans sa vie, il va réaliser, oh, j'ai péché là, là, là. Et là, il va ouvrir sa Bible, il va dire, Dieu est saint, Dieu ne tolère pas le péché. Pas... « Ah, la loi de Dieu me dit que je devais faire ça. » Non, non, non. Bro, hey, Dieu est comme ça. Dieu est saint. Dieu est pur. Dieu me demande de chercher à lui ressembler. Jésus a dit aux disciples, « Tout disciple sera comme son maître. » Qui ici est comme Jésus? Si vous levez votre main, je n'ai pas de crayon à vous lancer. D'habitude, dans ma classe, je vous lance des crayons. Je ne lance pas bien, fait que ça pourrait être dangereux. Mais qui ici est comme Jésus? Personne ne va lever sa main. Pourtant, Jésus dit, tout disciple sera comme son maître. Il ne dira pas, va ressembler à son maître, va savoir les mêmes choses que son maître. Non, non, va être pareil. On n'a tout pas été capable de se rendre là. Puis Dieu nous dit, dans sa parole, quand je te donne une information, Paul nous dit, mets-la en pratique. Dans sa parole, il ne dit pas, comprends. Non, non. Mets-la en pratique. Dans les textes que j'ai lus, si vous remarquez, l'homme naturel, bon, il y avait une liste de choses pas correctes qu'ils font. Mais l'homme nouveau, lui, il... Non, non, laisse-toi transformer. Mets-la en pratique. Mets en pratique la vérité. Aime ton prochain. Apprends ces choses-là. Sois transformé. Après ça, Dieu, tu me donneras une autre information. Parce que si tu m'en donnes trop, je vais exploser. Puis si tu m'en donnes trop et que je suis pas prêt, oh, que là, je vais être mélangé. Hein? Si je prends un nouveau croyant, un nouveau converti, puis là, je pars, moi, sur la fin des temps, puis qu'il n'a pas encore assimilé l'Évangile. Peut-être qu'il va juste dire, « OK, moi, je vais aller au ciel. Fait que Seigneur, t'es mort pour moi. Amen. » Il ne se laissera pas transformer. Puis là, je vais commencer à y domper un trop d'informations. Puis je vais remplir sa tête d'informations. Puis c'est arrivé à tellement de croyants dans le monde, autour de nous, que... Ils sont pas capables d'assimiler l'Évangile, mais je leur dompe un troc d'informations afin que, quand ils ont un doute sur « Est-ce que j'ai vraiment compris l'Évangile? » Mais voyons, t'as compris l'Évangile. T'es capable d'étudier la fin des temps. T'as fait tes devoirs. T'as compris la différence entre le calvinisme et l'arménianisme. Hey, t'as fait tes devoirs. T'es capable de comprendre des doctrines. C'est sûr que t'as compris l'Évangile. Right? C'est sûr, tu as compris l'Évangile. Tu as des doctrines bien plus profondes que l'Évangile. C'est facile, l'Évangile. Jésus est mort pour tes péchés. Tu sais, je le dis avec dédain. Là. C'est plus sérieux que ça. Mais vous comprenez? L'homme naturel va dire « Oui, amenez-en. » Et l'homme nouveau va faire « Oh, j'ai pas encore tout assimilé. » Je dis pas de lâcher vos cours. Je dis pas de pas chercher d'informations. Cherchez-la de la bonne façon. Par l'homme régénéré, allez puiser votre information à la source. Par la prière, par la recherche active. Et quand j'ai trouvé une petite parcelle d'information qui vient toucher mon cœur, et puis moi, souvent, quand je lis la parole de Dieu puis qu'il y a quelque chose qui vient toucher mon cœur, ça me fâche, ça m'énerve. Moi, ça vient, c'est ça, je suis comme ça. Pourquoi? Parce que je suis orgueilleux. Puis, j'aime pas mes émotions. Puis, quand j'ai des émotions, je pleure. Puis, les gars, ça pleure pas. Fait que, ça m'énerve. Fait que là, quand je lis ma Bible, puis je vois quelque chose, puis je me suis planté, oh, comment je vais assimiler mon information? L'homme naturel va être capable de justifier chacune de ses actions et de ses décisions par la parole. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, souvent, l'homme naturel qui connaît sa Bible va avoir des pensées de dire, « Moi, j'ai décidé de ne pas faire une action quelconque parce que les versets me disent telle, telle, telle chose. » Mais, dans ma vie, il y a ce petit point-là que j'ai de la misère avec. Mais, parce que Dieu est amour et parce que je fais des efforts, Dieu me pardonne, puis je peux avancer. Puis je vais avoir, je vais être justifié quand même. Et l'homme nouveau va accepter la critique. L'homme régénéré. L'homme naturel va dire, ben en fait, dans une situation quelconque, je m'engueule avec un frère. J'ai une chicane. L'homme naturel va dire, oui, mais c'est parce qu'il avait fait ça. Puis là, dans la Bible, ça dit qu'il ne faut pas faire ça. Puis là, ça dit, moi, mettons les enfants. Moi, je me chicanais des fois avec mes parents parce que, bon, dans la Bible, ça dit, honore ton père et ta mère. Ils ont été fins, ils ne me l'ont jamais lancé en pleine face, mais tu sais. Honore ton père et ta mère. Puis, moi, j'étais prêt, là. Je justifiais des fois mes actions par la suite du verset. Mes parents, n'héritez pas vos enfants. Tu mérites. Je connais ma Bible, tu mérites. Tu n'as pas le droit. J'ai le droit d'être fâché. Hein? L'homme naturel, là, il pense de même. L'homme nouveau fait, oh, c'est vrai, ça dit dans la parole, honore ton père et ta mère. Oh, je vous honore peut-être pas. Je chiale peut-être un peu après. Peut-être que des fois, je vous dis un paquet de vidanges. Je vous demande pardon. Yeah. Et kiki dans l'orgueil, ça, mes amis. En tout cas, j'accepte la critique. Peut-être que quand quelqu'un parle en avant, il y a un message qui est dur, puis des fois, on le dit, ça sort tout croche. Ça arrive. On est tout humain. Et puis là, il y a quelqu'un qui est offusqué, puis là, ah, t'as pas fait ça, t'as dit ça comme ça, puis là, l'homme naturel va faire, oui, mais dans la parole de Dieu, on a tel, tel, tel verset qui vient appuyer mon point. Et puis, l'homme nouveau va dire, je t'ai offensé, je m'excuse. Je vais être en paix avec toi. Ce que j'ai voulu dire, c'est ça. Mais si je t'ai offusqué, pardonne-moi, laisse-moi te montrer. Accompagne, je vais t'accompagner. Puis si tu es encore fâché après moi, après, ben je te demande pardon. Puis je veux pas qu'on soit en chicane selon ce qu'il est possible. En tout cas, je le dis n'importe comment, mais soyez en paix avec tous les hommes. Si cela dépend de vous. C'est ça? Je vais accepter la critique. L'homme naturel va utiliser la phrase suivante. Bibliquement, c'est pas mon appel. Ça, c'est un classique. Bibliquement, c'est pas mon appel. Je suis pas un prédicateur. Il y en a qui vont le faire. Je suis pas un évangéliste. Il y en a qui vont le faire. C'est son appel. Je suis pas un gars de service. Bibliquement, c'est pas mon appel. Je peux le prouver bibliquement, selon mes statistiques puis mes tests que j'ai faits. C'est pas mes dons. Donc, je ne ferai pas ça. Parce que je pourrais prendre la place de quelqu'un d'autre, que c'est peut-être son don. Puis là, bibliquement, si le corps n'est pas en parfaite harmonie, il va avoir des problèmes. Donc, vu que ce n'est pas mon don, je ne le ferai pas. Puis c'est bizarre, il n'y a jamais personne qui a le don d'évangélisation. C'est pas mon don. Parce que ça fait ben trop peur. Ben trop difficile. Il y en a, on va attendre que quelqu'un aille le don, puis là, bibliquement parlant, ça va être son appel, puis là, tout le monde va être content. C'est ça, hein? C'est pas mon don, la prière. Fait que je vais laisser ça aux gens spirituels, puis je viendrai pas aux réunions de prière. OK? Bon. On peut pas tous, puis c'est pas un taper ses doigts, mais... Oh, il y en a que c'est leur don, la prière. Fait que bibliquement parlant, eux sont mieux placés que moi pour intercéder. Donc, c'est pas trop grave si ma vie de prière est so-so. L'homme naturel va courir. Paul nous dit, je cours constamment, oubliant ce qui est derrière moi, cherchant à atteindre le but. Le but, c'est d'être pareil comme Christ. Christ priait constamment. C'est pas mon don d'évangéliser, mais le Seigneur me dit, partage la parole. Cette foi qui est en toi, ce qui t'a réanimé cette vie-là, si elle ne te pousse pas à partager, à t'ouvrir la trappe, à le parler, t'as rien compris? Cours, essaye, cherche, fonce. Bibliquement, c'est pas ma job. Je suis pas un prédicateur, je suis pas un théologien. Bibliquement, je peux pas vraiment faire ça. Puis là, c'est dur de comprendre la parole de Dieu. Puis Michel va nous donner des cours. Puis mec, j'ai eu tous les cours, je trouverai une autre raison. Puis quand je vais avoir... Mais là, c'est trop dur d'évangéliser. Il fait froid dehors, les gens pourraient me regarder bizarre. Je pourrais me faire traiter de fou. Donc, il y a quelqu'un que ça le dérangera pas. Puis bibliquement, ça va être son appel. Puis moi, ben, je vais venir écouter les prédications le dimanche matin. Puis je vais être content. J'ai pas besoin de courir pour ressembler à Christ. J'ai beaucoup d'informations. Je voulais vous prendre le temps de vous donner un exemple. On va le regarder rapidement. Si vous lisez le psaume 51, c'est David quand, après que Nathan ait été le voir pour lui dire « t'as péché avec Bathsheba, fait que tu choisis, soit Dieu es-tu le tiers du peuple de telle façon, soit Dieu es-tu le tiers du peuple d'une autre façon, ou soit Dieu es-tu le tiers du peuple d'une autre façon. Soit il y a une armée, soit il y a une famine, soit il y a une tornade. Choisis. » Qui veut être dans ses culottes? OK. On est tous d'accord. Psaume 51. L'homme nouveau va regarder un homme qui est conscient de son péché et de la conséquence divine qui s'ensuit. L'homme naturel va regarder ça et va dire, oui, David était conscient de son péché. Il y a une conséquence. L'homme régénéré va comprendre, va regarder David. Oh, dans quel endroit de ma vie est-ce qu'il y a quelque chose qui vient déplaire? Est-ce que dans ma vie, il y a des conséquences de péché que je vis que je dois accepter? David dit pas, enlève la conséquence. David dit, amène la conséquence, puis relève-moi. Amène-la, écrase-moi, détruis-moi, aide-moi à vraiment comprendre ce que je t'ai fait, Seigneur. Mais une fois que tu m'as détruit, oublie-moi pas. Laisse-moi pas là. Aide-moi à passer au travers. Je vais te connaître plus. Les étapes de la restauration de son âme. Tout ce qui se passe en lui. Seigneur, lorsque je t'aurai trouvé juste dans tes jugements, les eaux qui ont été brisées se réjouiront. Je paraphrase. Mais les eaux que tu as brisées sont brisées, les eaux. C'est pas « Seigneur, brise pas mon os! » Non, c'est « Brise-les. » Mais aide-moi à passer au travers. L'homme naturel va comprendre ces étapes-là, va les regarder. Oui, il y a une conséquence. Oui, il faut accepter les conséquences de Dieu. Et oui, c'est normal, après ça, on va être restauré, on va être mieux. L'homme naturel va vivre la même brisure que David, mais dans sa vie. Puis, votre conséquence, là, est pas mal moins pire que celle de David. C'est pas mal moins gros. Puis ça va probablement vous coûter pas mal moins cher. Ensuite, David avait les vrais sacrifices. Dieu, je t'aurais offert des holocaustes. Mais ce que tu recherches, le sacrifice qui te plaît, c'est une âme brisée. C'est un cœur meurtri. C'est quelqu'un qui comprend qui tu es. Puis là, on va voir l'homme naturel. Oui, je dois avoir du regret pour mes péchés. Quand j'ai du regret pour mes péchés, je vais être capable d'offrir quelque chose à Dieu. Puis là, il va me renforcer, puis il va bénir mon âme. L'homme renouvelé va demander à Dieu pardon. L'homme renouvelé va chercher qu'est-ce qu'il faut qu'il donne à Dieu. Qu'est-ce que j'ai dans ma vie, Seigneur, que je dois aller porter, que je dois te donner, que je dois abandonner avant d'aller à l'autel, avant de donner un bœuf, avant de donner quelque chose qui va te plaire, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois avoir passé au travers? Qu'est-ce que je dois avoir compris? Après avoir parlé des deux natures, on va relire Jacques. Ça fait 35 minutes. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Est-ce que j'assimile la parole de Dieu par l'homme naturel ou je la vis par l'homme renouvelé? C'est une question qu'on doit toutes se poser. Plus vous en savez, plus c'est facile d'être naturel. Je ne vous dis pas de ne pas chercher d'informations, assimilez-la. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je traite en homme naturel? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie, à moi personnel, que je vais regarder comme un homme naturel? Je ne laisserai pas Dieu aller là. J'ai mis des cadenas. J'ai mis ça dans un château fort. C'est impossible. Il ne faut pas toucher à ça. Ça fait trop mal. Est-ce qu'il y a des choses que je traite en homme naturel, que je ne donne pas à Dieu parce que l'homme renouvelé fait mal, c'est dur? Est-ce qu'il y a des choses que je dois donner à Dieu? Est-ce que j'ai à demander pardon pour certaines choses à Dieu, car j'ai des réflexions d'homme naturel? C'est correct, on est tous habités par l'homme charnel, on est tous en train de le combattre, mais la régénération commence par le pardon, par la recherche de pardon, par la recherche de Dieu. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je dois demander pardon à Dieu parce que j'ai botché, parce que j'ai travaillé en homme naturel, j'ai fait ça en deux pics? Utilisez l'expression que vous voulez. Est-ce que j'ai à demander pardon à Dieu pour des choses, de la rancune, de l'amertume que j'ai? Est-ce que j'ai à demander pardon à mes frères pour quelque chose que j'ai mal fait? Quelles sont les choses pour lesquelles je peux remercier Dieu dans ma vie? On ne peut pas être juste déprimé dans la vie, hein? Bon! Quelles sont les choses pour lesquelles je peux remercier Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai compris, que ça m'a fait du bien, que je peux me rappeler? Seigneur, j'ai passé à travers ces étapes-là avec toi. J'ai été régénéré, j'ai vu. Merci Seigneur, ça a fait mal, mais là maintenant je te connais mieux. Je comprends plus ton amour, je comprends plus ton pardon. Je comprends plus qui tu es. Je comprends plus mes frères qui peut-être souffrent. Quelles sont les choses pour lesquelles je peux remercier Dieu dans ma vie? On ne peut pas juste se demander pardon, hein? Faut dire merci. Donc, il faut regarder à notre vie. Qu'est-ce que ça change? Soyez pas comme Jacques décrit. Hein? On a passé beaucoup de temps dans Jacques ce matin. Soyez pas comme quelqu'un qui, placé devant le miroir de la parole, se voit puis s'en va. Mais soyez comme quelqu'un qui s'observe, qui s'arrange, qui veut être pur, qui veut ressembler à son Seigneur, puis qui va mettre en pratique la parole. Qui va, peut-être que l'étape à faire, là, c'est de sortir la petite boîte de théologie, d'ouvrir le couvercle, puis de regarder toutes les doctrines une à une. Est-ce que je les ai appliquées dans ma vie? Est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que j'ai nettoyé mon âme? Est-ce que j'ai nettoyé mes choses? Parce que si je n'ai pas passé par ces étapes-là, peut-être que ma compréhension de l'Évangile est fausse. Peut-être que je ne suis même pas sauvé. Peut-être que j'ai rien compris. Parce que, ça go, j'ai accepté le Seigneur sans vraiment comprendre. Puis après ça, j'étais allé bourrer ma tête d'informations afin de cacher que j'avais rien compris. Si c'est ça, aller devant le Seigneur, c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui nous aime puis qui nous encourage. Prions. Seigneur, on veut venir devant toi ce matin pour te dire merci. Merci que tu es un Dieu qui est bon, qui est compatissant, lent à la colère, qui est animé d'un amour pour nous qui est infini. Merci Seigneur parce que tu t'es révélé à nous d'une certaine façon. Tu nous as montré ton évangile et puis on a compris, Seigneur, notre besoin de toi. Aide-nous maintenant à appliquer l'information qu'on reçoit dans nos vies, à la vivre pleinement, à te laisser nous travailler, nous transformer. Et Seigneur Dieu, bénis ton Église ce matin, bénis chacun d'entre nous. Que ton nom soit proclamé, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que tu puisses vraiment être annoncé partout dans toutes les nations. Que ton nom soit glorifié sur toute la terre, Seigneur. Amen.